Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
All right then. Nobody told you to stop working.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un acteur là, qu'on peut qualifier de légende. Cet acteur, ce n'est ni plus ni moins que le grand Michael Caine, qui est mis à l'honneur là, par pas mal d'éditeurs. Et on va démarrer par aborder Zulu, un film de 1964 de Seinfeld. Film là qui ressort dans une superbe copie, dans une très belle édition chez Rimini Éditions. Qui est le film qui a vraiment, même s'il avait déjà tourné pas mal de films avant, mais il n'avait pas percé, là c'est le film qui va lancer sa carrière. Et puis, on abordera le coffret Michael Caine en 7 films, hein, qui a été donc édité par Elephant Film. Dans ce coffret, on retrouve Hic Press Danger Immédiat, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, donc on en parlera peut-être un peu moins, qui lance la série des Harry Palmer, un film de 65 de Sidney G. Fury. On parlera aussi d'un hold-up extraordinaire de Ronald Nim, un film de 66, un film de 74 de Don Siegel contre une poignée de diamants, un film de John Sturges qui date de 76, L'aigle s'est envolé. Un film alors, dont on a parlé, je parlais il n'y a pas très longtemps, on avait parlé aussi du Don Siegel il y a quelques saisons. C'est L'île sanglante de Michael Ritchie, d'après Peter Benchley. Je sais que Thomas il est un petit faible pour ce film, un film de 1980. Des films plus tardifs aussi. Élémentaire, mon cher Locke Holmes, un film de Tom Eberhardt de 1988. Et puis, l'un des films, moi, qui a été une découverte dans ce coffret, c'est Business Oblige de Jan Eggleston, un film de 1990. Je tiens à signaler que le coffret existe aussi en DVD avec un film en plus, un téléfilm de David Wicks qui est consacré à Jekyll et Hyde. Le tout sera complété d'extraits d'un entretien avec la légende, hein, puisque Thomas Roland avait pu rencontrer Michael Caine. Alors, il y a maintenant un long moment, hein, parce que il était venu à l'époque présenter Harry Brown et il avait abordé sa vie un peu, tout ça. C'est pour ça que vous allez pouvoir écouter Michael Caine dans l'émission. Et puis, vous l'avez compris, j'ai vendu la mèche. Moi, je ne serais pas un bon espion, moi, c'est clair. Je ne pourrais pas être Harry Palmer. Je ne suis pas tout seul dans ce studio. Il y a Thomas Roland, alias le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Jérôme, et bonjour à toutes.
On va démarrer tout de suite par... on va écouter Michael Caine. On va démarrer cette émission en écoutant Michael Caine, qui va tout d'abord nous raconter son retour de Corée, parce que c'est vrai que Michael Caine a fait la guerre de Corée, et c'est pour cela, en fait, que d'abord il a été embauché sur un film vague expert sur la question militaire, voilà, puisqu'il avait lui-même été militaire. Et il nous parle de ça, il nous parle de sa rencontre du coup avec Stanley Baker et de son embauche sur le film Zulu.
I basically went home, I had this feeling that I should go home, maybe I'd get some work. And I came back to London and I got a part in a movie called The Killing Korea.
Quand je suis rentré, je suis allé à la maison et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un travail. Je suis rentré à Londres et j'ai eu ce rôle dans un film donc qui s'appelait Commando en Corée, en 1956. Et mon rôle faisait 8 lignes. Alors j'ai eu ce rôle parce que j'étais conseiller technique, car j'avais été soldat en Corée. Alors je leur montrais comment ça se passait, et personne n'écoutait ce que je disais, mais j'ai quand même eu mes 8 lignes. Alors les collines du Portugal étaient si belles qu'elles rappelaient les champs de bataille en Corée. On a commencé le tournage sur une montagne, Monte Junto, à l'extérieur de Lisbonne. On partait toujours en plein soleil, et le temps qu'on arrive, le temps était couvert. Il nous a fallu 3 jours en fait pour comprendre que Monte Junto voulait dire la montagne de la brume. On était toujours là-haut, j'avais 8 lignes et j'en ai foiré 7. J'étais conseiller technique et personne ne m'écoutait, mais au moins c'était mon premier film. C'est là que j'ai rencontré un acteur, Stanley Baker, qui était une star en Angleterre. Il a été décisif dans ma carrière, car il a produit et joué dans le film Zulu, qui est le premier film où j'avais un rôle important. Les biographies sur Internet disent que j'étais dans 150 films. Mais il y en a au moins 50 dont je ne me rappelle pas, parce que c'était des tout petits rôles. J'étais toujours le policier qui mourait à la fin où j'étais le majordome. C'est tout ce que j'avais fait jusqu'au film de Cyan Field, Zulu, et avec Stanley Baker. Et ça, ça a vraiment été le début de ma carrière au cinéma.
Michael Caine qui évoque aussi, en fait, ses difficultés à percer dans le métier, comme je vous le disais à l'instant, parce qu'il a galéré pendant une bonne dizaine d'années avant de réussir à percer. Des années 60, donc difficiles, jusqu'à Zulu, qui est vraiment le premier film hein, qui a fait de lui un embryon de star.
Yeah, well, in the 60s, everybody I knew became famous. In the 60s, were like that. No matter who you knew, became famous. Everybody.
Dans les années 60, tous les gens que je connaissais sont devenus célèbres. C'est comme ça que ça se passait dans les années 60. Tout le monde devenait célèbre. Enfin, sauf moi. J'étais la seule personne que je connaissais qui n'était pas célèbre. Je ne comprenais pas. J'ai été la doublure de Peter O'Toole. J'étais toujours la doublure. Je n'avais jamais les rôles. Au début des années 60, ma vie était très très bizarre. Mais Terence Stamp, avec qui je partageais un appartement, a fait un film avec Peter Ustinov, Billy Budd, et il est devenu une star en une journée. Donc il n'y avait pas de problème, car nous avions un arrangement. Celui de nous deux qui arrivait à percer prenait l'autre avec lui. J'ai suivi Terence partout, les restaurants, les boîtes, etc. J'étais l'éponge de Terence, jusqu'à ce que je gagne mon propre argent, ce qui m'a pris très très longtemps. Je n'ai jamais gagné d'argent jusqu'à Zulu. Terence était alors devenu une star. Il était passé du petit cockney qui mangeait du pudding au gars qui mangeait du riz macrobiotique. Nos chemins se sont séparés car je mangeais toujours un type de nourriture sans supporter l'autre. Le riz macrobiotique ne passait pas pour moi. J'ai vu un jour un cartoon dans lequel on voit un homme dans un magasin bio qui demande « Pourrais-je avoir une demi-livre de riz macrobiotique ?» Car je n'arrive pas à porter une livre. Terry et moi étions des acteurs de théâtre. Et quand nous avons commencé à faire des films, on a appris à jouer pour le cinéma, avec la caméra. Il y a des trucs, dont un que j'ai appris lorsque je faisais des trucs pour la télé. Alors, s'il y a une caméra là, juste là, et que tu parles à quelqu'un et que la caméra est là, tu regardes la personne avec cet œil et tu gardes l'autre œil libre pour la caméra. Si tu tournes la tête et que tu regardes la personne avec cet œil, la caméra te prend ici. C'est Marlène Dietrich qui m'a appris ça. Elle m'a dit « Choisis un œil ». Mais je la regardais tout le temps, du coup je me mettais en colère. Elle m'a dit « Tu es un bon acteur, choisis un putain d'œil. » Vous pouvez voir beaucoup de travail avec les yeux à la télé. Un autre truc, si tu veux apparaître fort et puissant, ne cligne pas des yeux. Moins tu clignes des yeux, plus tu parais fort. Et si tu veux apparaître faible, commence à cligner des yeux. Puis si tu veux être drôle comme Hugh Grant, arrête pas de cligner des yeux.
D'ailleurs, à la question qu'on lui pose sur le fait que, est-ce que c'est grâce au fait que Seinfeld est un réalisateur américain qu'il a été embauché sur Zulu, ben oui, il va vous répondre oui, et il va vous expliquer pourquoi, Michael Caine.
Yeah, you know, I mean, the class system that all those years ago, when I was 30 years ago, were much stronger in England.
Oui, parce que le système de classe avait bien plus d'importance en Angleterre il y a 30 ans, enfin, la lutte des classes. Je dis toujours que mon rôle d'officier dans Zulu était usurpé. C'était un officier très bourgeois, ce qui était tout le contraire de moi, qui était un soldat discret lorsque j'ai fait mon service. J'ai toujours été sûr que si Seinfeld, le réalisateur de Zulu, avait été anglais au lieu d'être américain, il ne m'aurait jamais donné le rôle de l'officier. En fait, je suis allé auditionner pour un autre rôle qui me convenait beaucoup mieux de par mon vécu et mon accent. L'officier ne m'allait pas du tout. Et Seinfeld, le réalisateur, n'a pas vu ça du tout. Il avait déjà donné le rôle que je voulais à quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de rôle pour moi. J'étais grand et mince avec de longs cheveux blonds. Et il m'a dit, tu ressembles à un officier, pas à un soldat. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai fait avec parce que je voulais le rôle. Au moment des screen tests, j'ai rencontré Sai qui m'a évité toute la journée. J'ai pensé que ce n'était pas bon. Il m'a dit que j'avais l'air merdique à l'écran, mais que j'avais le rôle. Je lui ai demandé pourquoi j'avais le rôle si j'étais merdique. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. On te coupera en montage si on n'aime pas. Et c'est comme ça que j'ai eu le rôle dans Zulu. Je vous jure que s'il avait été anglais, il ne m'aurait pas donné le rôle.
Donc après, c'est quelques mots de Michael Caine qui démontrent à quel point le film Zulu est pour lui un film d'une importance capitale dans sa carrière. Il y a clairement un avant et un après. Est-ce que Thomas, tu peux nous en dire plus sur ce film de Seinfeld, qui est un film quand même assez marquant, hein, qui a marqué bon nombre de cinéphiles.
On pourrait dire qu'il fait partie d'un diptyque avec Les Sables du Kalahari, un diptyque sur le colonialisme, parce que le film parle ni plus ni moins de ça. Et Zulu donc retrace la vaillante résistance d'un régiment britannique à Rorke's Drift, en Afrique du Sud, en 1879, face à 6000 guerriers zoulous. Et donc, pour retracer ça, hein, parmi les acteurs et figurants qui personnifiaient l'armée Zulu, se trouvait Chief Buthelezi, le chef de la nation Zulu. Et en guise de conseillère historique, le film bénéficia du concours d'une princesse Zulu qui apporta beaucoup la véracité historique de la bataille. Donc, c'est un petit fort qui est installé dans une petit fort britannique, installé dans une vallée, au fond d'une vallée. Et en fait, les Zoulous viennent d'écraser les Britanniques, bataille qui est retracée dans un film qui est une préquelle qu'a co-écrite Seinfeld, mais qu'il n'a pas pu réaliser pour cause de décès, qui a été réalisée par Douglas E. Cox, quelque chose comme 10 ans plus tard, hein, avec Burt Lancaster et Peter O'Toole. Donc, dans ce film qui s'appelle L'Ultime Attaque, Zulu Down, eh ben, on voit les Anglais, les rosebif, être transformés en chair à pâté. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup, même si je le trouve inférieur au film de Seinfeld. Donc, Seinfeld raconte les Zoulous qui vont donc, après cette victoire, vont donc s'en prendre à ce petit fort britannique. Et ce petit fort britannique va vaillamment résister devant ces 6000 guerriers Zoulous. Alors, c'est pas un film qui fait... C'est pas un film de propagande, hein. C'est pas un film de propagande guerrière qui exalte l'armée britannique, etc. Bien au contraire, c'est un film qui met tout le monde sur le même plan et qui montre quand même aussi l'armée Zoulou comme des guerriers valeureux et qui ont un code d'honneur. Hein, parce que à la fin du film, ils saluent leur ennemi qui résiste vaillamment. En fait, il doit rencontrer Seinfeld hein, pour Zulu. Il a une première rencontre avec Seinfeld pour Zulu pour jouer un caporal cockney, donc quelqu'un qui est plus de sa classe. Hein, mais le rôle est donné à James Booth déjà. Et puis, Michael Caine raconte qu'il rencontrait Seinfeld dans un pub. Et puis donc, bon, alors déçu, il fait mine de partir. Il explique que le pub était long en profondeur, il avait une grande profondeur. Et c'est ce qui lui permit de pouvoir faire décoller sa carrière. Parce qu'au bout d'un moment, Seinfeld le rappelle. Elle lui dit, mais est-ce que vous pourriez faire un essai avec Stanley Baker tel jour? Et donc, il va faire l'essai avec Stanley Baker. Et plus tard, il est invité à une fête où il y a Seinfeld, etc., etc. Et Seinfeld, pendant toute la fête, il l'évite. Alors Michael Caine se dit, ah bah, c'est mal barré. Et à la fin de la fête, alors que Michael Caine essayait de se donner une contenance malgré tout l'alcool qu'il avait ingurgité, Seinfeld lui dit, bon, les essais étaient catastrophiques, mais vous êtes quand même engagé. Mais là, cette fois, pour jouer un militaire, un gradé snob, condescendant, méprisant, etc. Et donc, il s'inspire de son expérience dans l'armée et s'inspire de personnes qu'il a croisées pour incarner un soldat méprisant, condescendant. On lui fait des remarques par rapport à ça, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il porte son casque comme ça? Pourquoi il met les mains derrière son dos? Un producteur envoie un télégramme pour dire « Mais il sait rien faire de ses mains, virez-le !» etc. Et puis, alors, il se dit « Bon, bah, c'est foutu, il doit faire des scènes à cheval, il tombe de cheval, il se fait mal au dos. » Là, on lui explique que de toute façon... faut qu'il tombe les premiers jours, faut pas qu'il se blesse le dernier jour, parce que le dernier jour, les dernières prises, on en a plus rien à foutre s'il est blessé ou pas. Et donc, il a des doutes sur sa performance, et à un moment, il va voir Stanley Baker, il dit « Je sais que tu vas me virer, salut, etc. » Puis Stanley Baker fait « Alors c'est moi le chef, c'est moi le producteur, et je te garde, et tu vas faire de ton mieux. » Voilà. Donc c'est un tournage qui a lieu en Afrique du Sud. C'est la première fois que Michael Caine se rendait en Afrique du Sud. Et un jour, il est témoin d'un incident où un technicien sud-africain fait une bêtise. Et son supérieur, qui est un africaneur, lui fout son poing dans la gueule, quoi. Alors Michael Caine, il est outré. Sur le coup, il est interdit. Puis au moment où il veut intervenir, Stanley Baker intervient avant lui, puis il vire le mec. Et là, il découvre, il ne connaissait pas la situation politique en apartheid, il découvre la situation politique en apartheid, et là, il se dit, je ne remettrai jamais les pieds dans ce pays tant que l'apartheid sera en place. Et ce qui le motiva plus tard à jouer dans un film de Ralph Nelson aux côtés de Sidney Poitier, The Will Be Conspiracy, je ne sais plus le titre français, mais en tout cas, c'est un film contre l'apartheid dans lequel joue Michael Caine. Pour moi, Zulu, c'est un grand film. Enfin, comme je disais, c'est une sorte de diptyque avec les sables du Kalahari. C'est un grand film d'assaut, de siège, comme Assaut de Carpenter, des choses comme ça. Et je trouve que c'est un film très humaniste. Et pour moi, c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai pu voir dans ma carrière, et je trouve que c'est l'un des meilleurs films avec Michael Caine.
Vous écoutez Culture Prohibée.
The Secretary of State for War has today received the following dispatch from Lord Chelmsford, Commander-in-Chief of Her Majesty's forces in Natal Colony, South Africa. I regret to report a very disastrous engagement which took place on the morning of the 22nd January between the armies of the Zulu King, Cetshwayo, and our own Number 3 Column, consisting of 5 companies of the 1st Battalion, 24th Regiment of Foot, and 1 company of the 2nd Battalion, a total of nearly 1,500 men, officers,
and other ranks. The Zulus, in overwhelming numbers, launched a highly disciplined attack on the slopes of the mountain of Isandlwana, and in spite of gallant resistance, the column was completely annihilated.
C'est un film qui est porté par un souffle quand même, qui est porté par... c'est un film qui a longtemps été mésestimé d'ailleurs. C'est un film qui a longtemps été un peu mis de côté, un peu oublié. Et puis ces dernières années, là, bon, on voit cette édition là qui arrive chez Rimini, hein, mais ces dernières années, il a commencé à être réévalué. Il est rapproché pour moi d'un excellent film d'André de Tott que tu m'avais fait découvrir d'ailleurs, Thomas, et qui s'appelle Enfant de salaud. Qui est un film de guerre, c'est pareil, et avec Michael Caine. Donc, et je trouve que les deux personnages, là, ils se répondent bien. Les deux personnages campés par Michael Caine. Bon, même si là, en fond de salaud, c'est pas l'ordre du jour qui ressort dans une nouvelle édition. Mais oui, alors, je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on a encore énormément de films à aborder. D'ailleurs, on va être obligé un peu de sélectionner parce que si on veut écouter un peu notre ami Michael Caine s'exprimer, on va faire des petits choix dans les films. Je pense qu'on va un peu aussi passer sous silence les films qu'on a déjà chroniqués durant les 2-3 dernières saisons de Culture Prohibée. Bien sûr, je pense que tu as par contre des anecdotes savoureuses, faut pas t'en priver. Mais on va d'abord écouter Michael Caine avant de parler des films là, de ce coffret. Donc Michael Caine en 7 films, édité par Elephant Film, qui vient tout juste de sortir. Où en fait Michael Caine nous donne en fait quelques indications sur ce qu'il considère être important par rapport au métier d'acteur. Tout d'abord, il nous raconte comment il est devenu acteur dès l'âge de 3 ans. Voilà, il devient acteur très jeune et vous allez découvrir pourquoi.
Les gens me demandent quand j'ai commencé ma carrière d'acteur. Je réponds que j'avais environ 3 ans. Alors pourquoi étiez-vous un acteur à l'âge de 3 ans ? Ben, parce que lorsque le proprio venait chercher son loyer, nous étions tellement pauvres que ma mère se cachait derrière la porte. Je l'ouvrais et je disais au propriétaire « Maman est sortie !» Voilà, quand j'ai commencé, j'étais assez convaincant.
Et à un moment, il décide de devenir réellement acteur. Et là, on va pouvoir en savoir plus. Vous allez écouter Michael Caine, qui nous raconte aussi que la condition d'acteur, quand même, c'était quelque chose de pas facile, facile.
I wanted to be an actor since I was in a play, in a pantomime at school.
J'ai voulu devenir acteur lorsque j'ai fait partie d'une pièce de théâtre à l'école. Je suis monté sur scène, j'ai fait rire le public, sans rien dire, jusqu'à ce que je me rende compte que ma braguette était ouverte. Alors maintenant, je la vérifie à chaque fois que je monte sur scène, même à la radio. Nous avions un prêtre qui ramassait les délinquants dans la rue et les emmenait à la maison du quartier. J'y suis allé et ils avaient une troupe amateur. Toutes les jolies filles en faisaient partie. Mais je voulais rencontrer des jolies filles. J'avais 14 ans et de l'acné et les filles ne me remarquaient pas. J'ai donc pensé que si je faisais partie de la troupe de la maison de quartier et qu'il y avait une scène d'amour, peut-être que je pourrais en embrasser une. En vérité, je suis devenu acteur pour être embrassé. Et j'ai été embrassé et béni toute ma vie.
Because when I was a young actor, we used to go get a bed sitting room, a small place to live.
Et il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'estime pour les acteurs. Quand j'étais un jeune acteur, on avait l'habitude de vivre dans des petites garçonnières. Parce que nous allions dans les auberges de jeunesse, il y avait un panneau qui disait pas d'Irlandais, pas de Noirs, pas d'acteurs. On n'avait même pas de bons tarifs. On voulait pas d'Irlandais, pas de Noirs et pas d'acteurs. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'avais été un acteur irlandais et noir.
Après ces quelques mots de Michael Caine, on va donc parler de Michael Caine avec l'ami Thomas Roland. Pour aborder, donc après Zulu, qui est sorti une très belle édition chez Rimini, un coffret qui est paru chez Elephant Film. Alors, on ne va pas vous reparler de Dick Press dans J'ai immédiat, on vient de vous en parler il y a quelques semaines dans l'émission. Le film dessine Sidney Fury, un film de 65 qui lance la série des Harry Palmer. Mais il y a juste un film qui fait l'année suivante, qui s'appelle, mon cher Thomas, un hold-up extraordinaire, un film de Ronald Nim. Ronald Nim, peut oublier, c'est un bon réal, hein, sérieux, bien appliqué, avec Shirley MacLaine, excusez du peu quand même. D'ailleurs, c'est Shirley MacLaine qui va le chercher, hein, qui souligne le fait qu'elle aimerait bien jouer avec lui. Et et ben ce film de casse, hein, parce qu'il y a eu le Top Capi de Jules Dassin, il y a eu tous ces films de casse. Il y a eu un moment où tous les studios produisaient leurs films de casse. Ben, ce film de casse, il n'est pas comme les autres, Thomas.
Ronald Nim, le réalisateur de l'aventure du Poséidon, hein, donc un film marquant avec Gene Hackman. Oui, c'est un film de casse atypique où Ronald Nim, il casse un peu les codes, hein, il casse les codes du film de casse avec une fin surprenante. Généralement, les films de casse se terminent souvent par les voleurs sont rattrapés, etc. Comme Le Cercle Rouge, par exemple, hein, ça se termine vraiment mal pour les protagonistes. Et là, c'est un film de casse vraiment surprenant avec une mise en scène très élégante. Moi, je trouve que Ronald Nim, il a une mise en scène très classique, mais très élégante. Donc, c'est un film qui a un certain souffle et qui casse les codes du film de casse et qui se retrouve, qui est donc surprenant. Moi, je recommande, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus parmi la filmographie de Michael Caine.
Bah, les films du coffret, là, sont bien choisis quand même. Hein, en fait, c'est aussi un film très drôle. C'est un film vraiment très drôle. Bon, Charlie McLean, on sait qu'elle est hilarante. Ça match très bien. En fait, il est marrant, en fait, Michael Caine. Il est vraiment drôle. Parce qu'à l'époque, il est surtout connu pour des rôles assez sérieux, quand même. Enfin, et puis, le rôle mythique aussi, qui vient après, mais Get Carter, le rôle du truand. On ne peut pas dire que ce soit un rôle très comique. Voilà, le chef-d'œuvre de Michael Caine. Et moi, j'adore tout le début du film, qui est un leurre, en fait, qui est un trompe-l'œil. C'est quand même un comble dans un film de casse, quoi. Et ce film-là, c'est un peu la Panthère Rose sans Clouseau. Il a ce côté Blake Edwards aussi. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un film à redécouvrir. Puis bon, Charlie McLean, elle est irrésistible. Hein, mais je crois que tous les cinéphiles le diront. D'ailleurs, même pas que les cinéphiles, je pense. Mais elle est absolument irrésistible. Je pense que c'est un des films où elle est... vraiment d'une beauté assez sidérante. Et puis, c'est une actrice qui, on le sait, grâce à tous ses rôles chez Billy Wilder, qui a un sens du timing. Et ça match. D'abord, elle a choisi Michael Caine pour ça, je pense. Ça match super bien entre eux deux. Ça fonctionne super bien. Entre ce vrai faux couple désabusé qui doit leurrer un homme très riche. C'est Herbert Lom, hein, qui est un super acteur aussi, en plus, qui est excellent. Enfin bref, non, c'est vraiment assez chouette, parce que c'est un jeu de dupe où personne n'est dupe de l'autre, en fait. C'est ça qui est assez chouette dans le film.
Bah, tout le début du film, en fait, annonce la couleur du film, qui est un film sur les faux-semblants, sur ce qui est vrai ou ce qui est faux, quoi.
Écoutez Culture Prohibée spécial Michael Caine. We'll be right back. Après, dans le coffret, il y a aussi, on va rester dans la thématique des diamants, mais le film n'a pas grand-chose à voir avec le précédent qu'on vient d'aborder. C'est Contre une poignée de diamants de Don Siegel, un film de 1974. J'adore Don Siegel. Moi, tu sais, Thomas, je t'ai déjà dit, je trouve que Michael Caine est sans sas dans le film. Le film est un côté très sec, très dur, que j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est aussi l'apport de Michael Caine qui veut ça. Parce qu'on l'oublie, c'est un grand gaillard. Hein. C'est physiquement, il en impose hein, quand même. Hein. Parce que maintenant, on a l'image du vieux papy, du Alfred, dans les Batman de Christopher Nolan. Mais il a été aussi une sorte d'archétype de mâle viril, hein, aussi, Michael Caine. C'est pas mon Don Siegel préféré. Je trouve que le film est un poil long. Il souffre un peu par moment de manque de rythme et tout ça. Voilà, je l'aime bien. C'est un très bon film. Je conseille à tout le monde de le voir. Mais c'est pas mon Don Siegel préféré. Et je conseille de le voir d'ailleurs pour Michael Caine.
Bah, je trouve que le film a des problèmes d'écriture. Un léger problème d'écriture. Et en fait, Michael Caine voulait jouer avec Don Siegel aussi. Il y avait cette volonté de vouloir jouer avec Don Siegel, enfin chez Don Siegel. Mais moi, ce film, c'est un peu une madeleine. C'est un peu une madeleine. C'est un film que j'ai découvert assez jeune. Et notamment, la musique de Roy Budd m'avait marqué. Hein, cette ouais. utilisation des tablas, là, qui fait très années 70. C'est un très musique des années 70. Enfin, moi, même malgré ses défauts, c'est un film que j'aime beaucoup.
Après, il vient très peu de temps après l'inspecteur Harry, donc c'est quand même un peu déceptif. Cet inspecteur Harry, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, faut dire ce qui est, quoi. C'est un film parfait, quoi. Donc bon, on est quand même. Moi, je suis quand même un peu déçu, mais c'est à voir. Et puis il y a un film, ensuite un autre film du coffret que Michael Caine n'aime pas, de ce que tu m'as dit, Thomas, quand on préparait l'émission, que toi tu aimes bien. Par contre, c'est un film de John Sturges, un film de 76 qui s'appelle L'aigle s'est envolé.
L'aigle s'est envolé. Alors, c'est un film, à première vue, complètement improbable, parce que c'est l'histoire d'un commando d'un Wehrmacht avec le chef est incarné par Michael Caine, soldat de la Wehrmacht qui est valeureux, qui a de l'honneur, qui est antiraciste, qui tient tête aux nazis. Donc on voit bien que c'est une production américaine, hollywoodienne. Donc, parce que ça, c'est complètement invraisemblable, qui se repose sur un postulat qui ne l'est pas moins. Donc, c'est un commando de la Wehrmacht qui doit aller assassiner Winston Churchill, alors qu'il est qui est en retraite quelque part. Et donc, ce commando doit aller assassiner Winston Churchill. Alors, comme ça, raconté comme ça, c'est complètement invraisemblable, mais il semblerait que l'intrigue du film est basée sur un fait historique vérifié. Donc, voilà. Donc, alors, peut-être que le fait historique vérifié est effectivement historique, mais le reste du film est complètement invraisemblable, purement hollywoodien. Par contre, bon, donc c'est un film de John Sturges. Hein. John Sturges, c'est 7 secondes en enfer, un super western très sec, Règlement de compte à Hockey Corral, qui est un film qui est un peu plus vieilli sur la même histoire hein, d'ailleurs. Les 7 mercenaires, donc c'est quand même, c'est pas n'importe qui. John Sturges, il a fait des grands films d'aventure, hein. Mais Michael Caine, qui était très heureux de vouloir de pouvoir travailler avec John Sturges, dont il admirait la carrière, dont il admirait les films. Il se rend compte que John Sturges est en fin de carrière, qu'en fait réaliser des films c'est plus son truc. Lui, ce qu'il fait, c'était un film de commande, et il acceptait de faire des films. Je crois que c'est son dernier film d'ailleurs. C'est un film de commande, et lui il faisait des films juste pour pouvoir s'adonner à sa passion par la suite, c'est-à-dire la pêche en haute mer. Et donc, Michael Caine a été très déçu de voir que John Sturges était un peu blasé, et encore plus déçu quand il a vu que John Sturges, sitôt le tournage terminé, ne s'est pas du tout occupé du montage, et encore moins de la promotion du film. Donc, il trouve que le film est un film médiocre sans plus, et qui est un peu une déception dans sa carrière.
Par la suite, l'autre film du coffret, or qu'on aime tous les deux beaucoup, parce que c'est un film, c'est un peu une madeleine pour nous, quoi, voilà, mais bon... C'est pas un bon film non plus, il faut dire les choses. C'est un réalisateur qu'on aime défendre, hein, puisque Michael Ritchie, réalisateur de Prime Cut, qu'on adore, hein, je veux dire, l'un des réalisateurs du Nouvel Hollywood. Voté McKay aussi, qui était vachement bien, avec Robert Redford et tout. Enfin, un mec qui a eu un début de carrière exceptionnel, en termes de qualité de film, et puis qui est, petit à petit, s'est fait un peu écraser par l'industrie hollywoodienne, et son Golden Child, l'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy, a été... Bon, ça l'a enterré, quoi. Voilà, il est passé de réalisateur de la classe A à réalisateur qui ruine un studio. Voilà. Donc, voilà. Et là, L'île sanglante, c'est quoi ? Alors, on en a parlé il y a quelques saisons dans l'émission, donc peut-être moins revenir en détail dessus. Mais en tout cas, juste rappeler rapidement que c'est une adaptation de l'auteur des Dents de la Mer, de Peter Benchley, et que c'est quand même un film... étrange, un peu bancal, Thomas. Un film bizarre, en fait, quoi. Mais vraiment, le mot bizarre correspond parfaitement à ce film.
Ah, autant L'Aigle s'est envolé, c'est un film d'aventure qui tient parfaitement la route. Hein, je veux dire, on s'ennuie pas devant ce film-là. Autant L'Île sanglante, comme tu viens de dire, est un drôle de film. C'est un film qui commence comme un film d'aventure et puis qui, petit à petit... va ailleurs, on ne sait plus très bien où on est, il y a des personnages un peu étranges, enfin, une histoire de piraterie, on ne sait plus très bien si on est dans un film d'aventure, dans un survival, dans un film d'horreur, il y a tout ce mélange qui ne prend pas vraiment la sauce, mais on peut le considérer comme une sorte de plaisir coupable, de petite série B sympathique, ratée, mais devant laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir quand même. Mais Michael Caine, lui, n'aime pas beaucoup le film non plus. Lui, il espérait quelque chose de grand, parce que c'est les producteurs des Dents de la Mer, donc c'est l'écrivain qui a écrit Les Dents de la Mer, et donc le résultat l'a un peu déçu aussi.
Ouais, c'est un drôle de film, parce qu'en fait, pas trop en parler, on a dit qu'on en avait déjà parlé récemment, mais c'est un film étrange parce que c'est plutôt bien mis en scène, tout ça, mais c'est un film qui a vraiment des problèmes d'écriture, quoi. Le script est quand même pas très très cohérent, c'est pas évident de s'y retrouver. Bon, après, Michael Caine est très bon. Bon, après, Michael Caine, il est aussi même très bon dans Les Dents de la Mer 4. Ça, il est pas dans le coffret, on n'en parlera pas de ce film de Joseph Sargent. Film qui a permis à Michael Caine, du coup, de payer la maison de sa mère. C'est ce que tu me disais, Thomas, quand on préparait l'émission. Donc, je pense qu'il n'a pas accepté le film pour la qualité du film, mais il a accepté le film pour l'argent. Je crois que c'est assez clair, il s'en cachait pas. Écoutez Culture Prohibée. Parler de deux autres films qui sont dans le coffret. Le dernier, je l'aime beaucoup. Je ferai vraiment un gros aparté dessus. Mais le premier, pas mal non plus, c'est un film de Tom Eberhardt de 88 qui s'appelle Élémentaire, mon cher Locke Holmes en français, hein, et qui en fait part d'un postulat très simple mais qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, Sherlock Holmes, c'est une quiche, quoi. En fait, on a bâti le personnage, la gloire du personnage et tout, mais c'est une quiche. Le mec qui est vraiment intelligent, c'est Watson. Et donc, tout le film s'amuse à nous démontrer cela. Et Sherlock Holmes, bah, c'est notre ami.
Mais en fait, Sherlock Holmes n'existe pas. C'est un acteur. C'est Watson qui a inventé le personnage Sherlock Holmes pour pouvoir faire ses enquêtes de son côté, pour pas interférer sur son travail à lui. Et donc, il engage un acteur pour jouer Sherlock Holmes, mais c'est un mec qui est un peu porté sur l'alcool, qui aime les femmes et qui est particulièrement gaffeur. Bon, c'est pas un grand film, mais moi, je trouve qu'il est hilarant. Alors c'est Tom Eberhardt, le réalisateur. Mais Tom Eberhardt, je trouve que c'est un réalisateur quand même relativement intéressant. C'est un cinéaste un peu touche-à-tout. Il avait signé un film qui m'avait bien fait flipper, qui s'appelle « L'unique survivante », un petit film d'horreur. Et un film dont on a parlé aussi dans l'émission, c'est « La nuit de la comète ».
Ah ouais, c'est chouette, ça.
Donc, c'est un petit cinéaste, mais qui a fait beaucoup de télé, dont un épisode de « Parker Lewis ne perd jamais ». Attention. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce petit film élémentaire, mon cher Sherlock Holmes, car là, on voit tout le talent comique de Michael Caine. Et c'est un film qui, l'air de rien, même si c'est un film qui ne respecte pas le postulat des écrits de Sir Arthur Conan Doyle, il respecte quand même le mythe. Il y a Moriarty, etc. On retrouve des scènes qui pourraient être sorties des romans de Conan Doyle. Moi, je trouve que c'est un chouette choix parce que ça permet de mettre en évidence aussi toute la palette de son talent et de mettre en avant des films qui sont un peu plus modestes au milieu de grands films comme Crossfire ou Gambit. Je trouve que c'est un choix vraiment intéressant, puis un peu plutôt courageux, en fait.
Ah, de toute façon, bah, c'est un chouette coffret dont les choix... Alors, le dernier choix, j'ai gardé, tu sais, Thomas, que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ça a été une découverte. Je l'ai découvert avec ce coffret-là. C'est Business Oblige, de Jan Egelson, un film de 1990. Un film signé d'un réalisateur qu'en fait, personne ne connaît, parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de télé, qui a très peu travaillé pour le cinéma. Il a même pas fait... il a dû faire 4-5 films pour le cinéma. Celui-là est son dernier, ou un de ses derniers. Il a peut-être refait un film en 2000 ou 2001, je ne sais plus. J'avais regardé. Et il a très, très peu travaillé pour le grand écran. Il a surtout débuté en étant réalisateur indépendant. Alors pourquoi ils sont allés le chercher, je ne sais pas. Ils ont bien fait, par contre. Écoutez Culture Prohibée spécial Michael Caine. Thank you. Business Oblige, c'est une réussite, quoi. C'est un peu la transposition de l'état d'esprit des studios Hailing, avec Tueur de vieilles dames, tout ça, Arsenic et vieille dentelle, tout ça, qui serait ramené en 90 dans les États-Unis, dans le New York, on va dire presque Giuliani, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que encore mal famé, mais en même temps fréquenté par beaucoup de youpies, comme on dit. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? Business Oblige, c'est simple. Michael Caine, c'est un cas de sup dans une boîte. Il est dans un des services de la boîte dont il envisage de prendre la responsabilité au service marketing. Et puis, il a une secrétaire charmante, la jolie Elizabeth McGovern, qu'on avait un peu oubliée avec le temps, mais qu'en fait, elle a une sacrée filmo quand même. Elle a fait beaucoup de choses à l'époque. Et puis, tout le monde pense qu'il va avoir la promo. Parce qu'il y en a un qui s'en va de l'entreprise. Donc, c'est vraiment, logiquement, c'est à lui d'avoir la promo. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui a la promo. Quelqu'un d'un peu plus jeune que lui. Bon. Il est particulièrement furax. Il rentre chez lui, retrouver sa femme qui passe son temps. On comprend qu'il n'en peut plus de sa femme, en fait. Il n'en peut plus. Sa femme passe son temps à acheter des appareils de muscu. C'est une desperate housewife. En fait, on n'utilisait pas encore cette expression, mais c'est exactement ça. C'est une femme qui passe son temps à. Bah, c'est une belle femme. Elle essaye de s'entretenir, de garder la ligne, ça, pour son homme. Mais en fait, lui, il s'en fout de tout ça. Enfin, il apparaît assez blasé. Et c'est un requin, en fait, hein, dans son taf et tout. C'est un mec assez dur en affaires. Et là, il est au 36e dessous. Il repart et il. Quand il repart, il est dans le métro new-yorkais. Et dans le métro new-yorkais, alors, quand il est dans le métro, de toute façon, c'est ce qu'on a vu dès le début du film, il y a des clochards qui arrivent de partout, des SDF, pour employer un euphémisme, et qui viennent à chaque fois lui demander du pognon. Au début du film, il donne du pognon. Il est avec son pote George, qui est un autre de la boîte. En fait, ils sont un peu considérés comme des has-beens parce qu'ils sont trop vieux, George et lui. Et donc là... le SDF vient le voir pour qu'il lui donne sa pièce, quoi. Et puis, Michael Caine, il est vénère, en fait. Il est vénère, il n'a pas eu le poste qu'il voulait, donc il n'est pas content. Donc, ce type bien élevé, charmant, en costard-cravate, qu'on voit depuis le début du film, depuis 10 minutes, un quart d'heure, tout à coup, parce que c'est un film assez court, il ne fait même pas une heure et demie, hein. Tout à coup, bah, il repousse ce SDF qui a le malheur de le toucher, ça le met hors de lui, il le pousse. Sauf qu'en fait, il le pousse sur les rails et il y a un wagon de métro qui arrive. Il regarde partout, il n'y a personne qui l'a vu. Et en fait, il n'a pas d'emmerde derrière. Et ce moment-là, en fait, va considérablement le marquer. En fait, il a conscience qu'il a vécu quelque chose d'assez fort. Il a ôté la vie à un homme. Et bon, on ne peut pas dire qu'il manifeste une grande empathie. Mais par contre, on sent qu'en fait, ça lui a bien plu, quoi. En fait, il s'est découvert une vocation d'assassin à 60 balais, quoi. 50 balais, 60 balais, quoi. Enfin, on ne sait pas trop l'âge qu'il a, mais il a autour de la cinquantaine dans le film. Et du coup, plus rien ne lui est interdit dans la vie, quoi. Donc, il dit qu'il va faire de la magie, qu'il est magicien. En fait, bon, être magicien, c'est éliminer ses ennemis, hein, voilà. Et on va avoir une sorte de version un peu en plus drôle du couperet, en fait, qui a été adapté là, de Westlake par Costa Gavras, sauf que c'est pas l'adaptation du couperet, c'est l'adaptation en fait d'un autre bouquin qui est paru au Masque en France dans la collection Le Masque, un livre qui s'appelle Touche pas à mon système, A Shock to the System, de l'auteur britannique Simon Brett. C'est un livre de 84. Et à partir de ce moment-là, au moment où il tue ce SDF là, le film va devenir une comédie noire, très cruelle, où Michael Caine va développer des stratagèmes magiques pour éliminer ses... Alors parfois, c'est vraiment de la magie, hein, on se demande ce qu'il fait, mais bon, je ne vous en dis pas plus, surtout lors du final. Et il va tout faire pour arriver au sommet de la pyramide, parce qu'après tout, le département marketing, c'est quoi quand on peut être PDG d'une boîte, quoi. Voilà. Donc, et puis, il va se mettre à coucher avec sa secrétaire. Et il va prendre une confiance incroyable, quoi. Voilà. En lui, ça va décupler tout en lui, sa libido, sa soif de pouvoir. Voilà. Et le film est incroyablement noir, drôle. C'est cruel, c'est méchant, c'est... Michael Caine, il est extraordinaire dans le rôle parce qu'il a par moments... Il y a des gros plans sur son visage où on ne sait pas, quand il est en face de quelqu'un, s'il va l'assassiner ou l'embrasser. Enfin, des moments assez impressionnants. Il y a deux scènes qui sont vraiment extra en termes de mise en scène. Il y a une scène où son ami Georges se balade dans le métro. Il a un peu le moral dans les chaussettes, l'ami Georges. Et il se promène au milieu d'une horde hirsute de frics qui sont tous, en fait, c'est le lumpen prolétariat, en fait. C'est tous soit des travailleurs très pauvres, soit des clochards, soit... Et il se balade au milieu de tout ça. La scène, c'est presque une scène de film fantastique. Et puis, c'est presque onirique, en fait. Et puis, il y a cette scène incroyable où il y a une confrontation entre Michael Caine et un personnage féminin dans le métro, à quelques minutes de la fin. Une scène vraiment cruciale, qui est une scène de Hitchcockienne, vraiment de référence au cinéma et d'Hitchcock. Je ne peux pas vous raconter cette scène, parce que sinon je divulgage le film. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce film est réjouissant, il est féroce, et qu'en plus, il est immoral. Et d'ailleurs, dans le Blu-ray Elephant Film, on découvre qu'il y avait une fin morale, mais qu'en fait, ils ne l'ont pas choisi, ils ont choisi la fin immorale, parce que c'est quand même vachement mieux, du coup. Et dans ce film, La Business Oblige, de Ian Eggleston, moi, c'est ma belle découverte du coffret, puisque j'avais déjà vu les autres films du coffret, et ça, c'est ma belle découverte du coffret. Vraiment, sacrée comédie noire, comme j'en avais pas vu depuis longtemps.
Et il fait partie des films préférés de Michael Caine aussi. C'est un film qu'il voulait faire quand il a lu le scénario. Il a vu tout le potentiel comique qu'il y avait, hein, donc d'humour noir. Et il voulait absolument le faire et c'est l'un de ses films préférés.
Eh bien, je ne suis pas mécontent d'apprendre que c'est un de ses films préférés. Moi, mon film préféré avec Michael Caine, ça restera... Voilà, il n'est pas dans le coffret, hein, mais pour toujours, Get Carter, évidemment, de Mike Hodges, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. C'est mon préféré. Je ne sais pas, Thomas, toi, quel est le tien ?
Get Carter, c'est vrai que c'est un film qui est haut aussi dans mon panthéon. Mais moi, il y a un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, je l'avoue, mais qui m'a fait beaucoup rire, que j'aimerais revoir et que j'aimerais bien voir en Blu-ray, c'est Water, Ouragan sur l'eau plate, de Dick Clement. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film, mais c'est un film hilarant. Moi, j'aime beaucoup.
Il a fait aussi un film très drôle qui est Le Plus Escroc des Deux avec Steve Martin, qui est excellent, parce que Steve Martin est excellent aussi. C'est un génie comique, lui. Hein. Donc voilà, non, bon, on aime bien Michael Caine. Après, il a fait beaucoup de films, Michael Caine. Hein. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai vu tous les films dans lesquels a joué Michael Caine. Je pense qu'il a joué dans une bonne centaine de films, hein. Sans mentir. Hein. Donc, en plus, il a fait partie des mecs qui ont quasiment pas fait de télé, hein, du tout. Il a fait que du cinéma quasiment durant toute sa carrière. C'est vraiment un acteur de cinéma, quoi.
Il a fait au moins deux téléfilms, hein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et puis Jack l'Éventreur.
Une collaboration avec David Wicks, effectivement. On va terminer aussi par un petit conseil de Michael Caine sur ce que doit faire un acteur de cinéma, parce qu'on rappelle que Michael Caine a fait très 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 peu de théâtre. Il se considère lui-même, il le dit, hein, comme un acteur de cinéma, et c'est le cinéma avant tout, d'ailleurs, pour lui. Voilà, donc on écoute Michael Caine.
For an actor, of course, if the camera isn't there. I mean, the worst thing you can do is look at the camera, apart from Alfie, where you do it deliberately. But I mean, the camera is not there.
Et pour un acteur, la caméra n'est pas là. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est de regarder la caméra. Elle ne doit pas être là. Mais elle peut aussi être votre meilleur ami. Car si vous vous rapprochez, vous pouvez faire des choses sans dire un mot. La caméra ne rate rien. À la base, je suis un méthode acteur, un acteur de la méthode, selon Stanislavski. Et Stanislavski a dit cette phrase idéale pour le cinéma: la répétition, c'est le travail. La performance, c'est la relaxation. Si vous voulez être un acteur de cinéma, vous devez répéter. Pas forcément avec les autres acteurs, mais aussi seul. Toutes mes répliques, je les ai dites au moins 500 fois avant d'arriver au studio. Vous devez être à 100%, car la caméra relèvera la moindre peur, le moindre signe de nervosité. Parfois, on est nerveux sans même s'en rendre compte. C'est très important de répéter, répéter, répéter. Et c'est aussi très chiant.
Donc les films dont on a parlé aujourd'hui, parce que le temps nous manque, on arrive au bout de l'émission. Donc tout d'abord Zulu, le film de Seinfeld, qui donc là est disponible chez Rimini Edition, et puis ce coffret là, Michael Caine en 7 films, qui est édité par Elephant Film, avec Hic Press Danger Immédiat, Un Hold-up Extraordinaire, Contre une poignée de diamants, pardon, L'Aigle s'est envolé, L'Île sanglante, Élémentaire mon cher Locke Holmes, et Business Oblige, donc Business Oblige, que vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et donc il faut vous jeter sur ces éditions de Michael Caine, voilà, parce que Michael Caine est une légende vivante d'ailleurs, mais est une légende qui représente une certaine idée du cinéma qu'on n'est pas prêt de revoir, surtout que Michael Caine, il est un peu fatigué aujourd'hui, il a pris sa retraite. Il est très âgé et j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas la super forme. Donc, quand même, rendons hommage à cet acteur immense qui est Michael Caine à travers l'achat de ses Blu-ray DVD. Faites-vous plaisir. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radiographite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.